Las tierras, las tierras, las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A galopar, hasta enterrarnos en el mar. A corazón suena, resuena, resuena, las tierras de España en la cerradura. Galopa, jinete del pueblo, caballo cuatralbo, caballo de espuma. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte si va en tu montura. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar, hasta enterrarlos en el mar. A galopar, hasta enterrarlos en el mar.
Micro libre, fréquencillé, 87.9 FM. Émission en direct aujourd'hui depuis la cité scolaire. Si vous voulez, à chaque fois je vous le redis, mais il faut que ça rentre. Si vous voulez réécouter nos émissions, il suffit d'aller sur le site internet de la radio www.fréquence-sillé.org ainsi que sur la page Facebook de la radio. Faites une recherche, vous êtes tombé dessus. Voilà, voilà. Alors aujourd'hui, on va faire une petite émission particulière puisque pour celles et ceux qui ont suivi l'émission cette semaine, enfin la radio cette semaine, il y a eu des échanges très intéressants entre la France et la Pologne. Il y avait donc une délégation française qui était en Pologne. On avait fait d'ailleurs en début de semaine une émission en direct entre nos deux pays, entre la cité scolaire et puis le lycée polonais. Et aujourd'hui, donc, Eric Lucas, qui était en Pologne, est de retour et il a participé aux commémorations en Pologne. Et c'était l'occasion de parler dans cette émission Micro Libre des commémorations en général. Comment ça se passait? Comment c'était vu aujourd'hui? Qu'est-ce qu'une commémoration? Comment est-ce que c'était enseigné? Comment c'était transmis? Et puis des commémorations aussi qu'on oublie. On va aussi en parler de tout ça. Autour de la table, eh bien, beaucoup de monde. Il y a tout d'abord Jean-Paul Taupin, président et secrétaire aussi de l'UNC, ancien combattant à Ciel Guillaume, et secrétaire aussi du Souvenir Français. Bonjour.
Bonjour.
Il y a aussi Pierre Delahaye, le proviseur de la Cité scolaire.
Bonjour.
Ah, bonjour. Donc, on avait déjà entendu en début de semaine, qui revient pour une deuxième émission. Il y a aussi, donc, Christian avec nous, comme d'habitude.
Bonjour à tous.
Mouni.
Bonjour.
François, alors François, c'est un petit peu délicat, puisqu'il est le bras dans le plâtre. Donc il s'excuse de ne pas être là aujourd'hui, mais on va le retrouver la semaine prochaine, je pense. Eric qui est là, bonjour.
Oui, bonjour.
Et puis il reste Emmanuel qui va pas tarder, et puis Alain à la technique. Voilà, donc je vous présente un petit peu le programme. On va commencer en chanson avec, quand on a un petit peu de temps, on va commencer en chanson avec, alors Emmanuel qui arrive, avec une interprétation de Tu n'en reviendras pas, une chanson sur un texte d'Aragon, sur les soldats de 1914, interprété par Léo Ferré.
Tu n'en reviendras pas, toi, qui courais les filles, jeune homme dont j'ai vu battre le cœur à nu. Quand j'ai déchiré ta chemise, et toi non plus, tu n'en reviendras pas, vieux joueur de manille. Que nos buts a coupé par le travers en deux, pour une fois qu'il avait un jeu du tonnerre, et toi, le tatoué, l'ancien légionnaire, tu survivras longtemps sans visage, sans yeux. Dieu sait pour où, ça tient du mauvais rêve. On glissera le long de la ligne de feu. Quelque part ça commence à n'être plus du jeu. Les bons hommes là-bas attendent la relève. Roule au loin, roule le train des dernières lueurs, les soldats assoupis que ta danse secoue, laissent pencher leur front et fléchissent le cou, cela sent le tabac, la laine et la sueur. Comment vous regardez sans voir vos destinées, fiancés de la terre et promis des douleurs, la veilleuse vous fait de la couleur des pleurs, vous bougez vaguement vos jambes condamnées. Déjà la pierre pense où votre nom s'inscrit, déjà vous n'êtes plus qu'un mot d'or sur nos places, déjà le souvenir de vos amours s'efface, déjà vous n'êtes plus que pour avoir péri.
Tu n'en reviendras pas, chanson interprétée par Léo Ferré sur un texte de Louis Aragon en hommage, en souvenir de ces poilus de 14 qui sont tombés, 14 et 18 qui sont tombés dans les tranchées, une très belle chanson. Et c'est justement bah, par ces mots de Léo Ferré et de ces poètes qui ont chanté cette tragédie qu'on va partir en Pologne avec Eric, enfin revenir de Pologne plutôt, où il a essayé de revenir justement de Pologne, ça n'a pas été facile, mais ça c'est une autre histoire.
C'est autre chose.
Et donc tu as passé une semaine là-bas justement à l'occasion de ce 11 novembre. Première question, est-ce que le 11 novembre a la même signification en France qu'en Pologne ?
Alors justement, c'est pour cela que nous étions fort intéressés par le fait d'être présents en Pologne le 11 novembre, parce que ce 11 novembre 1918 n'a pas du tout la même résonance pour les Polonais que pour les Français et le reste de l'Europe. Et c'est un peu la même, parce que ça marque aussi un peu la fin de la guerre, mais je vous rappellerai tout à l'heure que ça, pour les Polonais, ça ne marque pas du tout la fin de tous les combats, loin de là. Mais surtout, le 11 novembre, là-bas, c'est l'indépendance, et on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Les moments d'indépendance sont souvent les moments qui sont choisis pour marquer une commémoration nationale dans un pays. Alors l'indépendance peut être rappelée pourquoi ? Parce que depuis 1795, il n'y avait plus d'État de Pologne, et plus d'État, plus de gouvernement, plus d'armée. D'un côté, on avait l'influence, la présence de la Prusse, la présence de l'Allemagne, avec une influence protestante. De l'autre côté, les Russes, avec une influence orthodoxe, si on prenait l'aspect religieux. De l'autre côté, au sud, l'Empire austro-hongrois, qui était déjà habitué aussi à gérer une multitude de minorités dans cet empire patchwork. Et au bout du compte, on avait donc finalement des Polonais qui, pendant autour de 120 ans, se sont trouvés bafoués dans leur identité nationale, bafoués dans le fait de maîtriser le destin de la nation polonaise et du pays, le fait de pouvoir bénéficier aussi finalement des ressources économiques importantes de ce pays, bafoué aussi dans le fait de ne pas pouvoir forcément pratiquer leur culte comme ils l'entendaient. Et on sait que pour eux, ça va devenir quelque chose de très important. Hein. Il faut rappeler que le personnage de Lech Walesa, par exemple, qui est le personnage emblématique de Solidarność, c'est à la fois le rebelle qui va se lever contre les communistes à la fin des années 70, début années 80, et c'est en même temps un fervent chrétien pratiquant, quoi, un catholique pratiquant. Donc il y a toujours cette ambiguïté. Alors, bref, pendant 120 ans, il n'y a plus de Pologne, et bien sûr, lorsque il y a l'armistice qui est signé en France, immédiatement Pilsudski décide de proclamer l'indépendance de l'État polonais, donc la recréation de la Pologne, et c'est pour évidemment tous les Polonais un moment très fort. Imaginez la France occupée pendant 120 ans et retrouvant d'un seul coup son identité nationale, évidemment que ce serait une date tout à fait capitale.
Alors tu disais dans tes réponses, tu disais que que les combats ne s'étaient pas terminés le 11 novembre 1918 en Pologne. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Ben oui, parce qu'on a vraiment trouvé des puissances, des États laissant d'eux-mêmes comme ça volontiers les terres aux nouveaux États se créant.
Hein, oui,
donc
rare,
on ne peut pas penser qu'effectivement les Polonais ont eu tous les encouragements des Austro-Hongrois, des Allemands, des Russes et des Ukrainiens aussi. Donc du côté polonais, par contre, il y avait la volonté de recréer la Grande Pologne. Il ne faut pas oublier que la Pologne a été un État très important au Moyen-Âge. La Pologne fait partie de ces grands États créés autour du 10e, 11e siècle, avec une grande puissance économique. La Pologne avait été longtemps le grenier de l'Europe, en quelque sorte. Les ports de la Hanse, Danzig, par exemple, Dansk, faisait partie de ces ports, de ce commerce important qu'il y avait sur la Baltique. Donc une vraie puissance économique l'envie qu'avaient finalement les Polonais, c'était de reconstituer cette Pologne puissante, forte, avec deux ou trois conditions. La première, c'est d'avoir les frontières les plus loin et une capitale, pouvoir aller vers la mer, pouvoir avoir à nouveau l'accès à la mer. Alors pour cela, il a fallu d'abord se battre contre les Ukrainiens. Il a fallu se battre contre les Russes, et ça a été compliqué parce que les Russes ont l'armée rouge a avancé très très près de Varsovie. C'est là que se situe une bataille qu'ils surnomment eux-mêmes, les Polonais, le miracle de la Vistule. Et puis de l'autre côté, il a fallu se battre contre des corps francs allemands du côté de la Silésie et de la Poméranie, et pour reprendre quelques territoires. Donc les combats ont duré pratiquement jusqu'en 1920, et c'est le traité de Riga en 1921 qui va finalement définitivement arrêter les frontières de la Pologne. Rappelons quand même quelque chose de capital, c'est le poids des Américains dans cette histoire, puisque le président Wilson, dans ses 14 points qu'il proposait de mettre dans les négociations après l'armistice, donc pour le traité, avait inscrit en point numéro 13 la légitimité pour le peuple polonais de pouvoir disposer d'un État à part entière, précisant même, avec une ouverture sur la mer.
Oui.
À partir du moment où les Alliés l'emportent, bien évidemment, les Polonais souhaitent pouvoir obtenir sans limite le respect de ce point-là. Et il va falloir donc qu'ils se battent. Alors là-dessus, ils vont être soutenus, hein, il faut quand même le dire. Alors attention, on est dans une période compliquée. On est sur les années 18-21. Et les Alliés sont intéressés par deux choses. Ils sont intéressés d'une part par le fait de soutenir les Polonais pour obtenir le territoire le plus grand, mais ils sont aussi très intéressés par le fait de pouvoir comprimer l'avancée et les victoires de l'armée rouge et donc du communisme. En l'occurrence, attention, on n'est pas dans uniquement une lutte d'alliance sur des intérêts de nation. Il y a derrière aussi des vrais enjeux politiques. Et c'est pour ça que les Anglais vont soutenir l'armée polonaise, et puis bien évidemment les Français qui vont envoyer des instructeurs, et c'est là qu'on rejoint notre histoire locale, puisque Charles de Gaulle, alors capitaine, sera lui-même nommé comme instructeur dans cette armée. Il va former je ne vais pas vous prononcer les noms polonais, parce que, un, vous ne les comprendrez pas, et deux, je suis incapable de les prononcer, donc on va avoir du mal à se comprendre, dans tous les cas. Donc il va former des officiers dans une école... Et il va demander lui-même à aller sur le front, à combattre aux côtés d'officiers polonais, parce que de Gaulle avait été un peu frustré par le fait d'avoir passé 18 mois emprisonné pendant la guerre, après le fait qu'il était capturé à Verdun. Donc voilà, alors en quelques mots, pour dire... en quoi la date du 11 novembre 18 est importante, puisque c'est celle qui proclame l'indépendance, mais ça ne veut pas dire pour autant que ça signifie pour eux la fin de la guerre comme chez nous.
Ouais. justement, ça c'est intéressant. Donc on voit bien que l'armistice, le 11 novembre, oui. On voit bien que le 11 novembre n'a pas forcément le même sens en Pologne qu'en France. En France, c'est le 11 novembre, c'est la fin des combats, mais ce n'est pas la paix. Alors qu'en Pologne, eh bien, c'est pas la fin des combats. Par contre, c'est l'indépendance.
Bah, c'est plutôt le début même.
C'est le début.
On peut dire que pour eux, c'est plutôt le début des combats. Ouais. Alors attention, n'oublions pas qu'il y a eu des combats sur ce territoire là, autour de la Biélorussie, la Russie, la Pologne, la bataille de Tannenberg par exemple, qui est une bataille importante hein, dans les débuts de la guerre, concerne ce front qu'on appelait le front de l'Est. Hein.
Alors justement, pour y voir un petit peu plus clair, j'ai interviewé Jacques Chénier, notre ami historien qui se trouve pas trop à l'Indonésie, peut-être qu'il écoute d'ailleurs l'émission. Qui
est on le salue dans ces cas-là.
Plutôt spécialisé sur la Deuxième Guerre mondiale, puisqu'il a écrit de nombreux bouquins sur la déportation, la résistance, etc. Donc c'est un historien très connu sur le secteur. Et puis il m'a fait le plaisir de venir à la radio pour enregistrer, répondre à deux questions. Qu'est-ce qu'un armistice et pourquoi est-ce qu'on n'a pas... pourquoi est-ce qu'on célèbre l'armistice et pas l'appel de 1919 ? Voilà, c'est les réponses qu'il nous donne. Alors, la première question que je voulais te poser, Jacques, c'est quoi le 11 novembre ? Qu'est-ce qu'on fête ce jour-là ? Qu'est-ce que représente cette date dans l'histoire ?
Alors, le 11 novembre, c'est un armistice. Alors, un armistice, c'est un document diplomatique qui permet d'arrêter les combats en situation. C'est-à-dire que dans le cas du 11 novembre 1918, les troupes, les Allemands demandent l'arrêt des combats. Mais le général Ludendorff, enfin, fait passer, d'ailleurs il a démissionné, c'est plus tout à fait lui à ce moment-là, mais ils font passer une demande d'arrêt des combats aux politiques. Et les politiques vont demander, d'abord ça va être toute une suite très, très, très complexe, et ils vont demander via le président Wilson des États-Unis à ce que les alliés arrêtent les combats. Il y a donc toute une série de négociations pour l'arrêt des combats. Ça n'est en aucune manière l'arrêt et la fin de la guerre. Du tout, du tout, du tout. D'abord parce que ça n'est pas un traité, hein, c'est une série de conventions qui sont renouvelables jusqu'à la signature du traité de paix. Donc quand on arrête le 11 novembre 1918, on arrête les combats, point. Mais ils peuvent reprendre à tout moment, d'un côté comme de l'autre. Et on le verra bien après. Par exemple, en 1942, quand les Allemands envahissent la zone sud, c'est une rupture des conventions d'armistice. Et dans le domaine strictement diplomatique, c'est légal. Donc un armistice, c'est un arrêt seulement des combats. Ça ne met pas à la fin à la guerre.
Alors on a un exemple quand même aujourd'hui, c'est la Corée du Nord avec l'armistice qui suspend les combats entre la Corée du Nord et la Corée du Sud, et on voit tous les problèmes que ça pose.
Ah ben c'est-à-dire qu'à tout moment, et c'est la grosse crainte d'ailleurs de la Corée du Sud, la guerre peut reprendre. D'où quand la montée en puissance militaire de la Corée du Nord s'est effectuée, la crainte était là. Mais à aucun moment, apparemment, entre la Corée du Sud et la Corée du Nord, les négociations n'ont été interrompues. C'est quand les militaires, quand les relations diplomatiques passent uniquement au stade des militaires que le danger existe, parce que les diplomates, à ce moment-là, perdent la main.
Le 28 juin 1919, c'est la signature du traité de paix, cette fois-ci à Versailles.
Oui.
Et pourquoi est-ce qu'on ne célèbre pas cette date plutôt que le 11 novembre ?
Ben parce que disons que ça consacre la défaite de l'Allemagne, officiellement cette fois. Par conséquent, nous sommes dans une situation totalement différente maintenant, puisque les relations entre l'Allemagne et la France sont des relations maintenant très accalmées.
Ouais.
Donc, on est maintenant dans une situation de rapprochement où les deux pays s'entendent très très bien. Et par conséquent, ramener le traité de Versailles, qui va être la source du conflit
suivant
en 1940, mais parce que ça a été exploité par les militaires on dirait aujourd'hui le terme c'est un anachronisme, mais on parlerait de fake news. Ils ont véritablement les nationalistes via Ludendorff en particulier, ils ont donné une image du traité de Versailles particulièrement catastrophiste et en retournant les responsabilités d'une part et d'autre part, disons en donnant des informations totalement erronées, en particulier sur le dictate. Et là, j'ai le document, je le montrais tout à l'heure, j'ai le document donc, du traité de Versailles qui a été publié par un journal qui s'appelle le journal Bonsoir, et donc c'était public,
oui.
Est un texte définitif qui a été rempli, signé, qui a été montré aux gens le 16 juin 1919, c'est-à-dire 12 jours avant la signature. Or, les Allemands, les nationalistes allemands, les nazis en particulier, diront toujours qu'on a eu le document sous le nez le jour même, donc on n'a pas pu y réfléchir. C'est manifestement faux. C'est un des exemples donc, de la manipulation nationaliste qui va avoir lieu après.
Oui. Voilà des explications de Jacques Chénier, historien du secteur, sur ce que c'est qu'un armistice, un traité de paix, et puis la faiblesse justement de l'armistice. Il y a eu quand même cette chance en France que la guerre n'est pas repartie après le 11 novembre, mais comme l'explique Jacques Chénier, ça aurait pu très très bien durer, et peut-être qu'il y aurait eu encore des millions de morts après, on peut imaginer un tas de choses. Est-ce que, autour de la table, ces réflexions autour de l'armistice, la différence entre la France et la Pologne, ça suscite des commentaires, des réactions qui voudraient s'exprimer par rapport à ça ?
Non. C'est pas facile. Hein.
Non, juste rappeler ce qui a été un peu occulté par les historiens et par les politiques, ce sont les morts qu'il y a eu le dernier jour.
Oui.
C'est-à-dire ceux qui sont morts entre le moment où l'armistice a été décidé et le moment où il est devenu officiel. Entre autres, ces soldats à qui on a rendu hommage là dans le Nord lors du périple d'Emmanuel Macron dans cette région, qui est mort 10 minutes juste avant la fin des combats. Et on a longtemps oublié de parler de ces soldats qui sont morts finalement de tout simplement un imbroglio, on va dire, purement administratif, si je peux simplifier les choses en mots d'aujourd'hui, quoi.
Oui, parce qu'on voit, que Jacques nous expliquait très bien, qu'entre le moment où la décision est prise de l'armistice et où il est finalement appliqué, il peut se passer énormément de temps, le temps que les gouvernements se mettent d'accord sur les horaires, sur les jours, enfin sur un tas de trucs, sur le terrain, en attendant, les gens continuent de mourir.
Et pour faire marrer juste un truc quand même, parce que le sujet est grave, mais on peut quand même se marrer des fois, savoir que le journal Les Alpes-Mancelles de Ciel Guillaume avait annoncé la signature de l'armistice et la fin de la guerre un jour avant.
Ah oui.
Ouais, le 10. Les Alpes-Mancelles avaient décidé que c'était le 10.
D'ailleurs, la date de la mort du dernier, celui qui est mort 10 minutes avant l'armistice, sur les documents officiels, a été reculé, c'est-à-dire qu'il est mort pour les documents officiels et pour sa famille, il est mort le 10.
Et pas le 11.
Et pas le 11. Mmh, alors qu'il est mort 10 minutes avant la sonnerie du cessez-le-feu.
Oui.
Les derniers combats ont eu aussi pour objet donc de prendre des gages et des positions vis-à-vis justement de l'hypothèse d'un armistice qui ne déboucherait pas sur une réelle donc paix. Donc c'est aussi faire passer un message donc à l'Allemagne en disant que la France était éventuellement prête à reprendre les combats si elle n'acceptait pas donc les conditions qui avaient été données par l'armistice.
Je vous propose une première pause musicale, enfin une deuxième dans cette émission. On va retrouver Leonard Cohen qui nous chante Les Partisans sur Fréquencier.
When they poured across the border, I was cautioned to surrender. This I could not do. I took my gun and vanished. I have changed my name so often. I've lost my wife and children, but I've many friends. And some of them are with me. An old woman gave us shelter, kept us hidden in the garret. Then the soldiers came. She died without a whisper. There were three of us this morning. I'm the only one this evening, but I must go on. The frontiers are my prison. Oh, the wind is blowing. Through the graves the wind is blowing. Freedom soon will come. Then we'll come from the shadows. Thank you.
Ils me disent signe-toi, mais je n'ai pas peur. J'ai repris mon âme. J'ai changé 100 fois de nom. J'ai perdu femme et enfant, mais j'ai tant d'amis. J'ai la France entière. Un vieil homme dans un grenier, pour la nuit nous a cachés, les Allemands l'ont pris. Il est mort sans souffrir.
Through the graves the wind is blowing, freedom soon will come. Then we'll come from the shadow.
Leonard Cohen, les partisans dans Micro Libre. Retour sur cette peut-être dernière émission de 2018 sur la guerre de 14-18, tout simplement. Et là, on va revenir sur ces commémorations. Peut-être déjà partir en Pologne, que Eric nous explique concrètement ce qui s'est passé le 11 novembre du côté de la Pologne.
Alors,
comment ça s'est passé?
Le 11 novembre donc, de cette année, c'était le centenaire. Donc, je n'évoquerai pas les manifestations qu'il y a pu y avoir à Varsovie, ni les célébrations officielles. Je vais juste parler de ce qui se passait dans une ville de province, hein, Skawina, 40 000 habitants, à 20 km de Cracovie. Donc, là, ça commence par la réunion de tout le monde sur la place centrale de la ville, place de la mairie, des distributions de cocardes blanches et rouges, bien sûr, et de petits manets là, sur le centenaire. Et puis il y a première chanson, donc les chansons dites patriotiques sont quelque chose de très très important chez les Polonais, y compris dans l'éducation polonaise. Donc déjà une petite chanson, puis tout le monde part de la place vers l'église. Là on arrive donc à cette église, pour vous dire, l'église pleine, et le double de personnes en extérieur pour cette messe, bien évidemment, enfin en polonais, je le précise au passage, puisqu'on avait déjà posé la question. Ce qui est intéressant, c'est de voir que la place qu'ont les uniformes dans ce type de manifestation. Les officiers, par exemple, les officiers réservistes, ce qui est le cas, par exemple, de notre ami maire de Jorkšice, lui portait son uniforme. Il a le droit, dans ce type de jour, de porter son uniforme d'officier réserviste. De même, la présence des scouts, la présence des militaires, et toutes les personnes qui portent uniforme ont une place privilégiée. Alors, quand je dis toutes les personnes qui portent uniforme, attention, c'était peut-être 200 personnes, les jeunes compris, hein, y compris les plus jeunes en costume scout. Attention, n'oublions pas que le général Allaire, donc, qui est le personnage emblématique dans l'histoire de cette région, c'est le fondateur aussi du mouvement scout en Pologne. Hein, donc ça explique aussi pourquoi c'est quelque chose d'important. Donc la messe, puis retour vers la place de la ville. Là, il y a donc défilé à ce moment-là des autorités avec toutes les personnes en uniforme pour revenir sur la place. Il y a donc le moment de discours tenu par le maire et son remplaçant, puisque finalement la passation de pouvoir, l'élection avait lieu une semaine avant et la passation de pouvoir va avoir lieu une semaine après. Donc Pavel Kolasa et Norbert Gibisco sont donc intervenus tous les deux, et le public donc est là pour poursuivre ce qui se passe. Et puis il y a à nouveau des chants interprétés principalement par des jeunes, des musiques, à la consonance plutôt militaire, enfin plutôt patriotique, hein, c'est clair. Et puis lâcher de ballon, enfin voilà comme ça se passe chez nous. Et alors à la fin, chez nous on aurait en Bretagne ça aurait été la galette saucisse ou ici autre chose, voilà. Et là c'est la soupe. Hein, la soupe à la choucroute, avec les petits morceaux de saucisse et de viande, et on fait la queue pour avoir sa petite écuelle de soupe excellente, comme toutes les soupes polonaises, et on mange la soupe en discutant de façon informelle sur la place, et c'est assez sympathique. Le soir, donc, nous, on a eu l'événement à Jorczyce, donc cette fois le village, hein, natal d'Allaire, et là, ça se fait comme un banquet républicain, c'est-à-dire que le village est là, les jeunes sont là, et puis on mange ensemble, il n'y a pas de grand discours, c'est le plaisir uniquement d'être là, et encore une fois avec beaucoup de chansons, nous on est passé par là aussi, avec le côté français, on célèbre ensemble, on fête, voilà, on fête vraiment, là, à ce moment-là, le centenaire. Et puis on discute, et puis on chante, et puis on boit. Disons que jusqu'à la 9e vodka, on arrive à peu près à tenir le coup. Attention, évidemment, cette dernière remarque étant à prendre avec
modération.
Très bien.
Alors on comprend bien aussi, vu ce que tu nous expliques au début, c'est que ce centenaire, ce 11 novembre en France et en Pologne n'a pas la même signification. Et je pense que peut-être qu'on pourrait imaginer, enfin on pourrait penser que le centenaire, enfin que le 11 novembre 1918 ou 2018 en Pologne, ça a plus un lien avec le 14 juillet chez nous, puisque c'est la naissance de l'État polonais.
Oui, ou l'Independence Day aux États-Unis.
Mmh. Ouais. Voilà, c'est pas tout à fait le même sens. Donc peut-être la présence de chants patriotiques, de drapeaux, de choses est aussi à remettre dans cette perspective. Alors à Sillé-le-Guillaume, bah, forcément, on a aussi fêté ce centenaire, ce 11 novembre 1918, et je sais, j'imagine volontiers que Jean-Paul Taupin, président des anciens combattants, secrétaire aussi du Souvenir français, était présent à cette cérémonie à Sillé. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des choses particulières par rapport aux autres années qui se sont passées à Sillé?
Par rapport aux autres années, disons qu'on a eu une participation beaucoup plus importante de la part des enfants,
ouais.
Des parents d'élèves aussi, hein. Des enseignants, on a vu des enseignants qu'on n'avait jamais vus c'est comme avant. Et la chose qui a été bien appréciée, c'est la lecture sur le monument aux morts des noms des soldats tués morts. Sur le front.
Ouais.
Et c'était un moment émouvant. Et la lecture aussi par les élèves des écoles primaires des lettres de poilus à leur famille.
Ouais. Et autre cérémonie, est-ce qu'il y a des choses au cimetière, par exemple, qui se sont
passées? Alors, au cimetière, disons
qu'il y a le carré polonais, puis il y a d'autres...
On a tout le carré militaire, alors on a le carré polonais, on a le carré sénégalais.
On en reparlera tout à l'heure, d'ailleurs.
Les soldats français, et le monument aux morts de 70.
1870.
Donc,
il y a un monument à Sillé.
Il y a un monument au carré militaire de 1870.
Ça, je ne savais pas, parce que généralement, c'est un événement, c'est une guerre qui est peu, qui est malheureusement peu connue. Mais
c'est peu connu, mais c'est quand même.
Sont très rares c'est par contre.
Il y a une cérémonie qui se fait tous les ans au Mans, la bataille du camp d'Auvour, quoi. Et c'est justement après cette bataille-là du camp d'Auvour que le Souvenir français a été créé. C'est une des associations les plus anciennes de France.
D'accord.
De façon à maintenir un devoir de mémoire envers tous ces soldats qui ont été tués sur le champ de bataille.
Et toujours sur cette guerre de 1870 qui est un petit peu l'oublié de l'histoire aujourd'hui, enfin aujourd'hui depuis longtemps, est-ce qu'il y a d'autres monuments visibles sur le secteur? C'est une question que je me pose tout de suite.
A changé, il y en a.
A changé?
A
changé.
Un monument assez important en plus.
C'est là que se fait la commémoration, je crois, de la bataille de camp d'Auvour.
Oui. Oui,
énormément de tués dans des situations assez critiques.
Alors, vous nous disiez tout à l'heure tout de suite qu'il y avait énormément de jeunes, peut-être qu'il y avait des jeunes de la cité scolaire. Est-ce que, je me tourne vers Pierre Delahaye, le proviseur de la cité scolaire, est-ce que la mairie ou les associations ont sollicité les professeurs ou vous ont sollicité, vous, pour participer sur ce 11 novembre, pour contribuer à cette commémoration, et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez proposé?
Oui, bah, comme les années précédentes, il y a une sollicitation de la part de la municipalité pour qu'on participe, ce qui est tout à fait normal, puisque quelque part, les commémorations aussi pour enjeu, donc, de mobiliser, donc, les jeunes et de les impliquer dans le souvenir. Alors, il y avait donc d'une part, il y a la forte contribution de la cité à travers donc le déplacement en Pologne, puisque ça s'inscrivait quand même dans ces évidemment dans ces commémorations qui concernaient ici donc les lycéens à travers un travail qui a été mené depuis l'année dernière. Et puis sinon, il y a eu aussi une participation donc de quelques jeunes donc de la cité scolaire aux cérémonies proprement dites, donc des jeunes qui sont proposés notamment pour participer à la lecture donc des noms de morts donc ici sur le monument aux morts. Alors, bien évidemment, la difficulté je dirais dans cette affaire là c'est pour ça que j'ai parlé de quelques jeunes, puisque mais ça c'est pas quelque chose de nouveau. On a toujours un peu de mal donc à mobiliser donc les jeunes à ce sujet, puisque ça interroge après derrière ça donc la mémoire qui s'estompe dans les familles, puisque maintenant on est quand même sur je dirais 100 ans qui sont écoulés. Alors autrefois on en parlait donc autour de la table, donc ça on évoquait ce qui se passait donc enfin où le vécu des je dirais des parents, des grands-parents, mais maintenant c'est un petit peu disparu. Alors maintenant ça prend une autre forme, on s'aperçoit que il y a une volonté justement donc dans certaines familles de retrouver ce qui s'est passé pour des personnes donc maintenant disparues. Donc et il y a aussi le même enjeu là où le scolaire peut très bien s'impliquer, il y a le même enjeu donc au niveau du patrimoine local, c'est-à-dire découvrir justement ce qu'il y a sur place et voir qu'il y a des connexions qui sont entre des monuments, entre des lieux. Bon, ben ici par exemple à Sissi, donc le camp polonais, il y a des choses évidentes donc à relier.
Alors, la question que je me pose, ces commémorations, donc on les a décrites que ce soit en France ou en Pologne. Ce que je me pose comme question, c'est est-ce qu'il y a derrière ces gestes symboliques, ces drapeaux, ces chansons, est-ce qu'il y a un message qu'on souhaite faire passer? Et si oui, lequel? Quel message on souhaite faire passer à travers ces commémorations, ce souvenir des guerres passées, des morts, aux jeunes générations?
Je vais prendre la parole.
Oui.
Alors, cette année, c'était le centenaire. Il serait souhaitable quand même que tous les ans, on ait un tout petit peu plus de monde que d'habitude. Ce n'est pas parce que c'était le centenaire qu'il fallait faire un effort. Je crois que l'effort doit être fait dans toutes les années qui vont venir, de façon à perpétuer et faire connaître ce qui s'est passé. Mm-hmm. Sinon, c'est quelque chose qui va disparaître. Quoi.
Mm-hmm. Alors, Pierre Delahaye, peut-être, à cette question
le fond...
Pourquoi transmettre cette histoire, mm-hmm. au fond?
Le fond du problème, bon, comme toujours dans ce qui concerne donc l'éducation, c'est donner du sens. C'est-à-dire donner du sens, puisque de toute façon, dans les programmes de l'éducation nationale, la Première et la Deuxième Guerre mondiale ont une place importante. Bon, ne serait-ce qu'il faut ça, parce qu'on parle donc de l'armistice donc du 11 novembre, mais je dirais de manière plus générale, à l'heure actuelle, les historiens donc perçoivent plutôt donc une guerre de 30 ans. C'est-à-dire que quelque part, l'armistice, donc c'est la fin donc de quelque chose, donc d'une tragédie donc terrible, mais c'est aussi donc ce qui peu de temps après va donner donc la Deuxième Guerre mondiale, donc avec une catastrophe donc encore plus importante. Et donc il y a nécessité, et ça c'est dans le cadre de la formation du citoyen, de mobiliser donc tout ça pour ici se rappeler qu'il faut se prémunir de renouvellement de choses pareilles. D'où derrière d'ailleurs toute la réflexion qu'il peut y avoir sur la construction européenne, puisque on se rappelle quand même que la construction européenne a été avant tout développée pour des raisons donc de préservation de la paix plutôt que des raisons économiques.
Éric.
Oui, ça va être très rapide. On a organisé un débat entre les Polonais et les jeunes Polonais et les jeunes Français sur la problématique de l'histoire. Pourquoi l'histoire est importante, et un Polonais a bien résumé les choses en disant l'histoire c'est important pour le passé, l'histoire c'est aussi important aujourd'hui pour le présent, de plus on est en train de faire aujourd'hui l'histoire, et l'histoire c'est surtout pour nos enfants. C'est-à-dire qu'en fait, il faut transmettre cette connaissance. Et j'ai trouvé que cette expression de maturité, finalement, sur la compréhension de ce qu'est l'histoire, qui n'est pas un truc dépassé, mais qui est au contraire quelque chose qui amène des éléments pour les futures générations, j'ai trouvé ça vraiment très très bien pensé de leur part.
Oui, alors Christian, peut-être que tu voulais dire quelque chose, je te vois t'approcher.
Oui, non, je voulais dire quelque chose au niveau des commémorations. Il y en a une dont je n'ai pas encore entendu parler ici, mais je vais en parler moi-même, qui se passe tous les ans à Alonne et qui est la commémoration destinée aux fusillés de la guerre de 14. Vous savez qu'il y a eu, pendant les 4 années de guerre, il y a eu plus de environ 650 à 700, on n'a pas encore fait tout à fait le recensement complet, entre 650 et 700 soldats fusillés pour des causes du type... il y a eu peu de désertions, extrêmement peu de désertions, mais les motifs qui étaient évoqués à l'époque, c'était surtout les blessures volontaires. Les blessures volontaires, les gars, pour retourner derrière le front, souvent se tiraient une balle dans la main ou dans le pied. Et c'était extrêmement surveillé, ce qui fait que dans les 650 ou 700 fusillés, il y a des gens qui ont été réellement blessés et qui ont été fusillés quand même parce que la blessure se trouvait un peu douteuse. Alors que on sait très bien que dans ces cas-là, une blessure à bout portant laisse toujours des traces de poudre sur le. Et quand on se tire dans la main, on est obligé d'être à bout portant, surtout avec un fusil. Hein. Alors il y a eu énormément. Ça a commencé en 14, hein, parce que on parle toujours des fusillés de 1917. Mais ça a commencé en 14 et de manière. C'est à l'initiative de Joffre et Pétain a pris la suite à la fin de la guerre. Voilà. Alors tous les ans, il y a une commémoration qui est organisée par des associations comme la Libre Pensée, la Ligue des Droits de l'Homme, la RAC. J'en oublie sûrement, mais ces trois-là, c'est celles que je connais le mieux. Donc voilà, je crois qu'il ne faut pas non plus oublier ce côté-là de la guerre et ce côté-là surtout de la bêtise et des officiers qui ont commandé. Il y avait vraiment des spécialistes et ils étaient poussés par le pouvoir qui leur disait il faut faire des exemples parce que le moral commence à baisser, etc., etc.
Alors Emmanuel, voilà. Tu voulais aussi intervenir.
Je voulais juste revenir un petit peu sur l'idée de la transmission aux enfants. Il y a aussi quelque chose qui me semble très important, c'est qu'ils comprennent l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, qu'ils comprennent comment on est arrivé là, et puis qu'ils comprennent aussi la chance qu'on a de ne pas vivre ça, alors que nos parents, grands-parents, arrière-grands-parents ont vécu pendant des décennies sous des mondes de torture. Je pense que quand ils prennent conscience de ce qui s'est passé vraiment, au-delà du livre d'histoire, quand ils s'imaginent les scènes, quand j'aime bien avec eux quand ils comprennent pas, refaire un petit peu, rejouer, les mettre dans le rôle de la personne qui vivait ça à l'époque. Et je pense qu'à ce moment-là, ils prennent conscience complètement de l'horreur que ça a pu être. Ça leur ouvre les yeux et ça leur donne souvent envie d'aller voir plus loin, d'aller chercher, de comprendre pourquoi c'est arrivé. Et c'est avec cette compréhension du pourquoi c'est arrivé qu'on permettra peut-être d'éviter que ça ne se reproduise. Donc c'est capital qu'ils en soient particulièrement informés, je dirais.
Alors je vous propose une troisième et dernière pause musicale choisie par Eric Edith Piaf avec ce titre « Ça ira » sur Fréquence Sillée.
Les aristocrates, on les prendra. La 300 ans qui nous promettent qu'on va nous accorder du pain. La 300 ans qui donne des fêtes et qu'ils entretiennent des catins. La 300 ans qu'on nous écrase, assez de mensonges et de phrases, on ne veut plus mourir de faim. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates à la lanterne. Ah, ça ira, ça ira, ça ira, les aristocrates on les pendra. La 300 ans qui font la guerre au son des fifres et des tambours. En nous laissant crever d'une misère, ça ne pouvait pas durer toujours. La 300 ans qui prennent nos hommes, qui nous traitent comme des bêtes de somme, ça ne pouvait pas durer toujours. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Le châtiment pour vous s'apprête, car le peuple reprend ses droits. Vous êtes bien payés nos têtes, c'en est fini, messieurs les rois. Il ne faut plus compter sur les nôtres, on va s'offrir maintenant les vôtres, car c'est nous qui faisons la loi. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates à la lanterne. Rassaillera, saillera, saillera, les aristocrates on les pendra.
Ah, ça ira, ça ira, Édith Piaf sur Fréquence 6.
Oui, juste rappeler que cette interprétation d'Édith Piaf, c'est celle qu'il y a dans le film de Sacha Guitry, Si Versailles m'était compté, et il se trouve donc sur les grilles du château. Vous savez, c'est le fameux moment où la reine dit s'ils n'ont pas de pain, qu'ils mangent donc de la brioche. Bon, sans commentaire.
Voilà, je vous propose de retrouver une dernière fois Jacques Chénier pour la seconde partie de l'interview, avec la question que je vais poser, pourquoi commémorer aujourd'hui ? Voilà, on écoute Jacques Chénier. Qu'est-ce qu'une commémoration avec en sous-question, est-ce que commémorer, c'est rendre hommage aux morts du passé, ou est-ce que commémorer, c'est aussi dans un esprit de, je dirais, politique, par exemple, par rapport au présent ?
Alors, il y a deux choses. D'abord, une commémoration, ça veut dire qu'on met quelque chose, un élément, un fait, dans la mémoire collective. À la différence d'une célébration où on rend célèbre, où on rend hommage, donc, à des gens, etc. Une célébration, c'est cela. Alors, une commémoration, ça peut être positif ou négatif. Mmh. On peut très bien commémorer, par exemple, une défaite. Rien n'interdit de commémorer. On pourrait commémorer la défaite de Waterloo, par exemple. On ne le fait pas parce que ce n'était pas très glorieux. Donc, il se trouve que les commémorations que l'on fait en général doivent avoir un effet positif pour la, disons que pour que la société, en l'occurrence la France, soit soudée, que l'on trouve qu'on ait une histoire commune. Et ça nous renvoie à la définition de la nation. Mmh. Donc c'est un des éléments, un des ciments de l'idée de nation.
Or, c'est comme la Révolution française, par exemple le 14 juillet.
Tout à fait. Par contre, la célébration, ça a été le bicentenaire de la Révolution. Mais c'était aussi une bicentenaire, à usage du moment, tout simplement. Mais le problème donc de la commémoration, c'est qu'effectivement, on va donner une image d'un fait, et là dans le cas présent, effectivement, avec tous les risques que ça peut avoir, hein, effectivement, l'hommage au maréchaux, par exemple, on en parlait tout à l'heure, l'hommage au maréchaux de 14-18 pose un certain nombre de problèmes, parce que si effectivement, pour certains d'entre eux, ça peut se justifier, c'est le cas en particulier pour le général Monoury, c'est le cas pour le général Gallieni, c'est le cas aussi pour le général Foch, d'une certaine manière, c'est beaucoup plus discutable pour les autres, en particulier pour Joffre, et en particulier pour Fayol et Pétain. Mmh. Donc l'hommage, faire une cérémonie, une commémoration, ça pose le problème effectivement de l'histoire. Or, on donne une image, et dans le cas présent, ça veut dire qu'on va donner, on va donner un hommage national de la nation à ce moment-là. Et donc, la commémoration, ça donne au moment où il y a des tensions internes entre des personnes dans certains secteurs, eh bien, c'est un moyen de ressouder tout le monde autour d'une idée forte, autour de notre histoire, qui est un des éléments de la cohérence nationale. Mmh. Donc voilà, mais le traité de paix aurait pu être aussi cela, parce que le traité de paix théoriquement, enfin on parle du traité de Versailles, mais il y a eu 5 autres traités derrière, hein. Il y a eu le traité de Saint-Germain-en-Laye, il y a eu le traité de Neuilly, de Trianon, de Sèvres, qui est très important, parce qu'une partie de ce qui se passe actuellement au Moyen-Orient, et en particulier en Syrie et en Irak, trouve son origine dans le traité de Sèvres. Le problème kurde trouve son origine là, hein, donc parce que le Kurdistan a été reconnu par les alliés, il existe. Hein, donc ce sont ces commémorations-là, c'est peut-être aussi pour ça qu'on ne va pas commémorer les traités de paix, parce qu'ils posent des problèmes aujourd'hui. Donc alors, c'est effectivement à temps présent.
Merci Jacques.
Et bien voilà, merci à toi.
Voilà Jacques Chénier sur Fréquencier qui nous donnait quelques éléments intéressants sur pourquoi commémorer, que commémorer et le sens de ces commémorations aujourd'hui, dont on voit qu'elles peuvent être utilisées selon aussi les usages du présent qu'on veut en avoir. Alors on va revenir sur ces commémorations en général. On a parlé du 11 novembre, on a évoqué en chanson le 14 juillet. Et je voudrais qu'on revienne un petit peu sur ce qui se passe aujourd'hui. Donc il y a d'autres événements qui sont bien avant. Il y a le 8 mai, il y a la fin de la guerre d'Algérie, il y a la journée des déportés. Je voudrais qu'on parle un petit peu, ou qu'on revienne à la cité scolaire avec ce travail qui va être entrepris sur un pays méconnu, une histoire méconnue. Là, par contre, il s'agit de l'Arménie.
Oui, c'est les oubliés un petit peu de cette guerre. Malheureusement, les Arméniens ont été victimes d'un génocide extrême. Hein. Plus de 2/3 de la population a été abattue en quelques semaines. Et nous avons eu la chance, en cours d'histoire, de recevoir un descendant, je dirais, de cette mémoire, Monsieur Jean-Michel Bilemdjian, qui a traduit les mémoires d'un orphelin arménien, donc qui a été écrit par un ami de son papa, avec qui il a, enfin dont le papa et l'ami étaient l'un des deux orphelins de l'histoire. Donc vous pouvez d'ailleurs trouver ce livre, je fais une petite pub au passage, mais vous le retrouverez sur dans le bureau de tabac de la place de la République à Sillé. Hein, et donc nous recevrons ce monsieur avec quelques élèves parce que nous avions envie en fait de rendre hommage un petit peu à ces gens oubliés de l'histoire, de dire que voilà, il y avait ça aussi à ce moment-là. Je pense que ça a choqué pas mal d'élèves. Il y a une petite dizaine d'élèves qui se sont portés volontaires pour venir faire cette émission. Donc on est en train de préparer. Il va nous falloir un petit peu de temps parce que c'est compliqué. Il faut remonter dans l'histoire, faire des recherches, aller voir, parce que dans les manuels il n'y a pas grand chose. En cours, on en entend peu parler, donc on a beaucoup de démarches de recherche à faire avec les élèves avant, mais ils sont assez impliqués et impatients de faire cette émission, donc on vous redira dès qu'on peut effectivement donner une date pour faire une émission spéciale génocide arménien.
Donc voilà. Tu as un numéro de la revue Histoire, qui est une revue tout à fait respectable, consacrée totalement au génocide arménien.
D'accord, je chercherai.
Je ne sais pas, il y a au moins 3-4 ans que c'est sorti. Hein. Voilà, si je le retrouve chez moi, je te le passerai.
Alors, sachant aussi que ce jour-là, j'ai aussi convié Jacques Chénier pour qu'il nous parle. Donc on va parler du génocide arménien, mais on parlera aussi des génocides du XXe siècle, parce qu'il y a eu malheureusement plein d'autres génocides jusqu'à une date récente. À des dates récentes, on peut penser à le Kosovo, enfin pas le Kosovo, mais l'ex-Yougoslavie,
le Rwanda,
le Burundi, enfin tous ces pays quoi. On va rester sur Sillé, et puis avec Jean-Paul Taupin, donc parler un petit peu de ces commémorations à Sillé. Donc on a vu qu'il y avait le 11 novembre, et puis vous avez dit aussi qu'il y avait d'autres commémorations qui étaient célébrées au long de l'année sur Sillé, les alentours.
Alors nous commémorons le 19 juin le jour où des Sénégalais se sont fait fusiller à Sierra Leone.
Ouais, alors on va y revenir après, si vous pouvez présenter un petit peu les autres dates.
Les autres dates, alors on a aussi le premier samedi du mois d'août, qui est le plus près du 9 et 10 août 1944, le jour de la libération de Rouen-en-Champagne et Sierra Leone, et le 5 décembre pour la fin de la guerre d'Algérie.
Ouais, plus le 11 novembre, j'imagine.
Oui.
Oui, forcément. Et lui, là aussi. Alors,
Il y a un petit dilemme entre la fin de la guerre d'Algérie, puisqu'il y en a beaucoup qui disent que c'est le 19 mars, c'était les accords d'Évian. Malheureusement, entre les accords d'Évian, qui étaient le 19 mars 1962, Au 5 décembre 1962, il y a eu 258 soldats français qui sont encore fait tuer pendant cette période-là.
Ouais. Donc, toujours cette question de délai entre on prend la décision et puis aussi appliquer sur le terrain.
Tout à fait.
Ouais. Et pour revenir sur cette histoire des Sénégalais, moi qui m'intéresse beaucoup, enfin qui peut aussi intéresser les auditeurs, parce que c'est une histoire qui est très, très peu connue, je pense, bon, sur Sillé peut-être, mais ailleurs, dans les environs, peut-être un peu moins. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu pourquoi ces Sénégalais? Qu'est-ce que c'est cette commémoration? À quelle occasion? Qu'est-ce qui s'est passé à Sillé
Ce qui s'est passé en 40, c'est qu'il y avait toute une troupe de Sénégalais, tirailleurs sénégalais, qui est descendue vers le sud, qui devait prendre le train à Sillé-le-Guillaume. Malheureusement, il y en a une quinzaine qui ont tardé un peu, et le lendemain, ils ont traversé la ville de Sillé. Malheureusement, les Allemands, qui avaient un camp sur Sillé-Plage, étaient en patrouille dans Sillé et ils sont tombés sur les 15 Sénégalais. Alors apparemment, il y en a un qui serait échappé par la complicité de citoyens silléens. Et les 14 autres ont été emmenés sur le pré Guité, boulevard des Jardiniers, pour être fusillés. Alors ils ont été fusillés un mercredi en début d'après-midi et leur corps a été laissé en pâture, si on peut bien dire ça comme ça, jusqu'au lendemain matin, où les boueurs de la commune les ont emmenés dans une fosse commune au cimetière.
Eh ben.
Mais quelle année, ça ?
En 40. Le lendemain de l'appel du général de Gaulle, puisque c'était le 19 juin. Et un an après, ils ont été exhumés pour être remis dans le carré militaire par une personne qui est encore vivante aujourd'hui.
Ah ouais.
Qui avait 16 ans à l'époque. Et qui a eu la triste besogne de sortir de terre tous ces Sénégalais-là pour les mettre dans un cercueil individuel. Alors aujourd'hui, dans le carré militaire, nous avons les 14 Sénégalais. Enfin, il y en a 12, plus 2 qui sont compotes de plaques, donc qui sont inconnus.
D'accord, et ça nous, c'est à Sillé-Guillaume.
C'est à Sillé-Guillaume.
Alors ça montre aussi que, bon, on va rejoindre l'histoire, mais ça montre aussi que le racisme, et puis puisque ces soldats ont été tués parce qu'ils étaient noirs.
Je pense que c'était plus de racisme qu'autre chose. Ils avaient la peau noire. Il a été raconté beaucoup de choses, parce qu'il y en a qui ont dit que dans la poche de ces Sénégalais, on avait trouvé des oreilles d'Allemands coupées, mais bon... C'était par vengeance.
Ah, il faut justifier parfois ses actes. Oui.
Donc,
ça fait partie de ce qu'on appelle les crimes de guerre.
Ouais. Voilà.
Oui, ça fait partie des crimes. Est-ce que d'ailleurs il y a eu un jugement, la libération? Est-ce qu'il y a eu des recherches
faites pour savoir
quelle unité aurait pu faire ça, les responsabilités de ça? Non, il n'y a jamais eu de.
Il n'y a jamais rien eu.
Jamais rien.
C'est dommage.
Ouais.
C'est dommage parce que.
Tu sais, quand on voit par exemple Radour, le général Lamerding qui dirigeait la. Les massacres de Radour, il est mort dans son lit. Hein.
Ben oui.
D'autant plus que dans la troupe de Radour, il y avait des Français engagés malgré eux de l'armée allemande.
Ouais. Et donc il y a tout un travail de mémoire, là, pour le coup, et puis de transmission de cette mémoire, de cette histoire, qui est fait donc par le Souvenir français.
Puis l'association UNC-AFN. Ouais. Malheureusement, nous mettons des articles dans les journaux 8 jours avant. Même la municipalité l'absente, alors.
Ouais.
Qu'est-ce que vous voulez faire?
Et est-ce que le Sénégal a été, je ne sais pas, ambassade ou consulat?
Ah oui, il y a une commémoration qui a été faite il y a une vingtaine d'années au cimetière, quand il y a eu une rénovation du carré militaire. Il y avait l'ambassade du Sénégal qui était là et tout, quoi.
Ouais.
Et il y a 4-5 ans, Monsieur Diaye, qui était un des descendants des Sénégalais, est venu ici. Il disait qu'il était venu 3 fois en France et qu'à chaque fois, il était venu ici. Voilà, donc oui.
Je l'emmène toujours sur les lieux où s'est passé le drame, quoi. Et on reste en contact tous les ans avec cette personne-là.
Ouais.
Et est-ce que professeur à Dakar.
Ouais. Et est-ce que vous êtes venu? Est-ce que le Souvenir français est intervenu au lycée, cité scolaire, pour parler
non,
de...
Jamais, je crois pas.
Ce serait l'occasion peut-être de lancer une idée de...
Il faut quand même rappeler que le Souvenir français participe au financement d'un certain nombre de déplacements.
C'est
quand même important.
Disons qu'on arrive à avoir des subventions.
Non, mais de parler, je pensais de parler de cette histoire aux jeunes... qui sont collégiens, lycéens, à Sillé, puisque ça s'est passé pas très loin de chez eux, en fait. Voilà, c'est une histoire importante quand même.
Disons que dans un premier temps, ce serait bien de les réunir sur le lieu même où le massacre était fait, quoi.
Le Champ Guité.
Le Champ Guité, ouais, c'est sur le boulevard des Jardiniers.
Parce que c'est l'occasion non seulement de rappeler un fait historique, mais en termes de racisme, c'est quand même effectivement un point de départ. Et il y a des documents, il y a des films qui ont été tournés quand même concernant l'implication des troupes coloniales dans les deux guerres et la vie pas facile qui leur a été donnée, même rien qu'indigène tout simplement. Mais il y a aussi d'autres films ou téléfilms qui ont été faits. Moi, je me souviens avoir été marqué par ces images sur, je sais pas si c'était un film ou un téléfilm. Les films où les Allemands sur des ponts sur la Loire écrasaient avec leurs chars directement les troupes noires, parce qu'ils étaient noirs tout simplement.
Est-ce que ça appelle le commentaire autour de la table, c'est ou à joue sur ces commémorations? On arrive à la fin de cette émission avec beaucoup de choses qui ont été dites, beaucoup de choses d'apprises aussi, je pense, de part et d'autre, des choses intéressantes aussi, j'espère, pour les auditeurs, auditrices.
Oui. J'ai des petits messages ici.
Des petits messages.
Donc, pour dire, émission très intéressante. Voilà, donc.
Tout va bien.
Alors, on peut parler aussi de la commémoration sur la route de Rouen.
Sur la route de Rouen.
Sur la route de Rouen, bien, disons qu'une bataille assez dure avait eu lieu pour libérer. Rouen en Champagne et Saint-Guillaume.
Ouais.
Et
alors ça, c'est en 44.
En 44. Hein. Ouais. Soldats américains et canadiens se sont fait tuer sur le lieu là-bas où il y a la stèle.
Ouais. Donc ça, c'est en remontant les troupes américaines qui remontaient du Mans pour aller vers Falaise, enfin le Mortain.
Bah, pour remonter sur le front.
Voilà, oui. En tout cas. Oui, vas-y, Emmanuel.
Juste aussi une petite pensée. Là, je pense à un papy de mon village qui me racontait une anecdote, entre guillemets, où un jour il se promenait du côté de Baie et où il a assisté à l'assassinat d'une famille par les Allemands. Et je pensais à toutes ces personnes et tous ces anonymes, en fait, dont l'histoire va être effacée parce qu'il ne reste pas de traces, il n'y a pas d'écrit, il y a juste la parole des anciens qui s'en vont, malheureusement, petit à petit. Et il y a tous ceux qu'on oublie aussi, toutes ces horreurs et tous ces drames dont on n'a pas conscience parce qu'on n'en a jamais parlé. Voilà. Donc cela aussi mériterait d'avoir une petite plaque.
Il y a quand même de temps en temps des éléments positifs. Moi, je suis président des gens du voyage pour le département de la Sarthe. Et il n'y a pas très longtemps que nous sommes invités comme officiels à la journée des déportations. Et il faut dire, bon, je n'ai pas spécialement d'affection pour Hollande, mais c'est lui qui a aussi relancé et fait supprimer une quantité de démarches administratives obligatoires pour les tziganes et les gens du voyage récemment. Il y a des choses qui reviennent, parce qu'il ne faut pas oublier que ces gens-là ont été déportés, non pas en Allemagne, il y en a, à part quelques Alsaciens qui ont été déportés en Allemagne, mais les tziganes et les gens du voyage ont été déportés en France, et ils ont été déportés dans des camps de concentration, d'ailleurs il y en avait à Mulsanne,
Montreuil-Bellay,
c'était un des plus grands en France. C'est là que d'ailleurs s'est fait la commémoration. Et il faut savoir que cette déportation a duré un an et demi après la libération.
Est-ce que qui veut faire le mot de la fin, parce que c'est toujours moi qui le fais, donc si quelqu'un veut se lancer. Éric, Mouni, on n'a pas entendu beaucoup parler.
Non, c'est vrai.
Emmanuel,
c'est pas très,
Jean-Paul Taupin, en tout cas, je vous remercie d'être venu à cette émission.
Je vais laisser le mot de la fin plus à Monsieur le Proviseur.
Eh bien voilà,
allez, très bien.
Pour conclure.
Bien, ben, je vous remercie pour la participation à cette émission et je suis très content d'y avoir été invité.
Eh bien, merci. En tout cas, c'était encore un plaisir de discuter tous ensemble de sujets d'actualité. C'est d'actualité puisque c'était le 11 novembre, même s'il y a eu 100 ans qui sont passés entre nous. On se retrouvera, nous, pour la semaine prochaine, pour une nouvelle émission de Micro Libre. Et puis, j'espère que François sera parmi nous, soit par téléphone, ou soit on ira le chercher, on lui dira de venir.
En tout cas, voilà, on lui transmet toute notre affection, et puis on espère que ça va aller mieux. Quoi.
Ça va aller mieux. En tout cas, merci, et puis à la semaine prochaine. Au revoir.
Merci.
Au revoir.
Last year tierra, las tierras, las tierras de España, la grande, la sola, desiertas llanuras. Galopa, caballo, cuatralbo, jinete del pueblo, que la tierra es tuya. A galopar.